Radio Okapi. Le journal Onésime Mukandila. Bienvenue dans votre édition de journal dont voici le sommaire. La CENI entend organiser les élections des gouverneurs et leurs adjoints dans le respect des lois de la République. Avis de son rapporteur adjoint, ce que décrit le M17 fustige à cage, tandis que Jacques Joly crie à la violation de la Constitution. Procès Moïse Katumbi contre Alexandros Toupis. L'examen de l'appel introduit par Moïse Katumbi a débuté aujourd'hui au tribunal de grande instance de Lubumbashi. La qualité internationale, le dossier, l'invité et le sport sont également au menu de votre journal. Voilà tout, mesdames et messieurs, pour l'essentiel des titres. À toutes et à tous, bonsoir. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 11 provinces. La Commission électorale nationale indépendante entend les organiser dans le respect des lois de la République. Précision du rapporteur adjoint de la CENI, Onésime Koukatoula, l'a dit aujourd'hui à Radio Okapi. Selon lui, son institution a annoncé l'organisation de ces scrutins après avoir été notifiée par le ministre qui a en charge la gestion des provinces. Onésime Koukatoula est au micro de Paul Matendo.
La loi dit que lorsqu'un gouverneur ou vice-gouverneur est empêché ou qu'il est décédé ou qu'il démissionne, la CENI organise des élections pour remplacer grâce à la saisine du ministère qui est en charge la gestion des provinces. Et dans les cas d'espèce, la CENI a été saisie par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur et Sécurité pour constater les vacances et il a demandé à la CENI d'organiser des élections de gouverneurs et ou vice-gouverneurs des 11 provinces.
On constate que dans les Kasaï centrales, par exemple, il n'y a pas de vacances. Qu'en dites-vous ?
Les débats sur qui a fait quoi, qui ne peut faire, ne situe pas au niveau de la CENI. La loi dit que la CENI, dès que la CENI est saisie, dans les cas d'espèce, elle a été notifiée par le vice-premier ministre et ministre qui est en charge de l'intérieur et de la sécurité. Donc celui qui connaît les provinces, qui connaissent des vacances.
Ce n'est pas dans une concertation entre un ministre de l'Intérieur et la CENI que l'on peut démettre des gouverneurs de province. Réaction du M17, mouvement du 17 mai à l'annonce hier par la centrale électorale de l'organisation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 11 provinces. Le M17, qui l'a décrié aujourd'hui dans une entrevue avec la presse, estime que parmi les victimes, il y en a qui ont bénéficié des décisions judiciaires de la Cour constitutionnelle qui sont irrévocables et d'autres sont encore devant elle. Le M17 refuse que les institutions judiciaires soient subordonnées à l'exécutif. Écoutons Augustin Kikukama, président du M17. Il s'est entretenu avec Innocent Olinga.
Il faut absolument que les textes juridiques, que les lois et notre constitution soient respectés. Qu'on instrumentalise aujourd'hui la CENI pour organiser des élections parce qu'il y a un parti politique qui a écrit pour retirer sa confiance à certains gouverneurs et qu'il y a des ministres qui disent que la CENI doit organiser les élections. C'est pas le ministre qui décrète les vacances dans des provinces. Ce n'est pas aussi un parti politique qui décrète cette vacance. Il est de leur droit de retirer leur confiance. Maintenant, ils doivent aller au bout de leur action. Aller au bout, c'est d'instruire leurs députés, d'initier des actions. C'est ça la démocratie. Mais on ne peut pas aller de l'arbitraire en arbitraire. Moi, je n'ai aucun gouverneur qui est de mon parti. Je parle au nom de la loi. Que vous soyez de la majorité, que vous soyez ministre de l'Intérieur ou que vous soyez qui, la première des choses, si nous voulons qu'on nous respecte nous-mêmes, c'est de respecter nos propres lois, c'est de respecter nos propres institutions, encore que les institutions judiciaires ne doivent pas être subordonnées à l'exécutif.
Dans la même veine, l'Association congolaise pour l'accès à la justice se demande sur quel mécanisme juridique la CENI compte-t-elle organiser l'élection du gouverneur au Kasaï central. Le président provincial de cette structure exhorte les autorités du pays à respecter la constitution. Maître Adrien Ilobakwei, qui réagit au communiqué de la CENI, constate que le gouverneur Alex Kandé n'a jamais démissionné et son gouvernement n'a jamais été déchu par l'Assemblée provinciale. Akaj propose un schéma pour arriver à cette élection. Maître Adrien Ilobakwei s'est confié à André Kamala Mujanaï.
Le gouverneur Kande n'a jamais démissionné, il n'a jamais été révoqué, aucune motion n'a été votée contre lui ni contre son gouvernement. Et organiser les élections dans ces conditions, ce sont des élections irrégulières tout simplement, parce que aucune loi congolaise n'admet que dans pareilles circonstances on puisse organiser les élections dans notre province. La CAJ estime que nous ne sommes pas quand même dans une république bananière, là où la volonté du législateur n'est pas respectée, mais au contraire c'est la volonté des individus qui prime sur celle du législateur. Nous nous proposons ceci: soit le chef de l'État ou le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur doivent tout faire pour convaincre au gouverneur Kande de démissionner, d'abord pour simplifier maintenant la procédure pour qu'on puisse organiser les élections. Dans le cas contraire, Kande demeure dans son fauteuil, parce qu'il ne faut pas que les gens oublient qu'il a un mandat électif. La majorité ne doit pas continuer à prendre ce pays en otage en foulant aux pieds les lois juridiques qui régissent notre pays.
Rappelons que c'est depuis le début du mois de février 2017 que l'autorité provinciale Alex Kande, en l'occurrence, a été appelée à Kinshasa pour une mission de service. Autre réaction, c'est celle du professeur Jacques Djoli, qui estime que la CENI a violé la constitution en proposant d'organiser les élections dans les provinces où les gouverneurs ont été réhabilités par la Cour constitutionnelle. On l'écoute au micro d'Étienne Kalima.
Il se pose un sérieux problème de constitutionnalité de la démarche de la CENI. Tant que nous n'avons pas la certitude que ces gouverneurs ont formellement déposé leur démission, nous ne pouvons pas aller aux élections avec ces calendriers. D'ailleurs, lorsque il pose ses démissions, la loi impose toujours à cet article 197 que les élections puissent avoir lieu dans un délai bien déterminé. Donc, on ne peut pas publier un calendrier en violation de la Constitution. Organiser des élections là où les gouverneurs, soit, n'ont pas formellement démissionné, même s'ils ont été l'objet de motions, la Cour les a réhabilités, et que les arrêts de la Cour s'imposent à toutes les institutions, nous prenons un peu trop de latitude avec notre Constitution, avec l'esprit de nos lois et de nos normes de conduite politique globale.
Nous vous le disions à l'éminaire, l'examen de l'appel introduit par Moïse Katumbi a débuté aujourd'hui au tribunal de grande instance de Lubumbashi. Il concerne l'affaire de spoliation de maison qui l'oppose au grec Alexandros Toupis. Au cours de cette première audience, toute la bataille se déroule autour des questions de procédure. Témoin de l'événement, Jean Nandou.
Toute l'audience de ce jour a tourné autour des questions de procédure. D'abord, les avocats de Moïse Katumbi ont indiqué que leur client n'a pas été régulièrement notifié. Pour l'heure, il vit à Bruxelles et non à Lubumbashi. En outre, ils ont déposé une déclaration de récusation. Moïse Katumbi a récusé 29 juges sur les procès qui comptent la juridiction, ce qui a fait dire à la partie Alexandros Toupis que ce sont les manœuvres dilatoires qui n'ont qu'un seul objectif, à paralyser l'appareil judiciaire. Et pour cela, ils se sont fondés sur une jurisprudence de la Cour suprême de justice. Par la suite, la partie de Moïse Katumbi a, une fois de plus, déposer un pourvoi en cassation en demandant au tribunal de se dessaisir du dossier. Pour les deux premières exceptions, le tribunal les a rejetées. De Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Plus de 1000 cas de choléra sont enregistrés depuis le 26 juin dernier, dont deux cas des décès. L'entre de traitement des victimes au Nord Kivu, ce sont les statistiques fournies par la division provinciale de la santé, à en croire les autorités sanitaires. Bien que la prise en charge des malades rassure, certains défis majeurs tels que la carence d'eau à Goma et dans les territoires de Nyiragongo touchés par l'épidémie appellent à une solution immédiate. Docteur Janvier Kubuya, médecin provincial de la santé, s'exprime au micro de Marc Maroufimbo.
Jusqu'à la date d'hier soir, nous avons enregistré 1168 cas de choléra. Jusque-là, nous n'avons déploré que deux décès. Or, les défis majeurs auxquels on est confrontés, c'est l'approvisionnement en eau. Parce que par moment, nous assistons à des interruptions de la fourniture en eau. Or, les choléras, comme nous sommes en train d'en parler, nous devrions normalement avoir de l'eau potable de manière permanente. Et comme vous connaissez très bien la ville de Goma et les territoires de Nyiragongo, il y a aujourd'hui des quartiers qui ne sont pas couverts par la régie des eaux. Et cela, c'est vrai, pour accéder à l'eau, et c'est vraiment une casse-tête pour les ménages.
Sachez que c'est depuis le 11 juillet dernier que le gouvernement provincial a déclaré officiellement l'épidémie de choléra à Goma et dans le territoire de Nyiragongo. Des mesures ont été prises pour faire face à l'épidémie, mais le manque d'eau criant dans la ville et ses périphéries reste une problématique majeure dans la stabilité de l'épidémie. Le nouveau commissaire général de la police nationale congolaise, Dieudonné Amouli, a reçu aujourd'hui l'étendard de commandement des mains du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. C'était lors d'une cérémonie organisée au commissariat général de la PNC à Kinshasa. En sa qualité de patron de police, le ministre de l'Intérieur a présenté à toutes les troupes le nouveau commissaire général et demandé à celles-ci de se soumettre à ses ordres. Cette remise de l'étendard s'est déroulée en présence de tous les nouveaux commandants de la police nommés lundi dernier par le chef de l'État. Emmanuel Chadari revient ici sur les principales missions confiées au nouveau patron de la PNC. Il est au micro de Billy Yvon Lutumba.
Le commissaire divisionnaire principal, Dieudonné Amouli, ici, il a eu des instructions du commandant suprême. Il connaît ses instructions. Tout ce qu'on peut lui demander, c'est sécuriser davantage les Congolais et leurs biens. Mais également, nous allons insister sur ordre du commandant suprême de pouvoir mettre un accent particulier à la formation. La formation de nos policiers. Et j'insiste, il doit améliorer davantage la sécurité des Congolais et de leurs biens.
Voilà. Monsieur le ministre, quand vous parlez d'améliorer, quelles sont les mesures particulières face à ces nouvelles attaques que connaissons ?
Nous étions en réunion il y a 48 heures avec le Premier ministre. Nous avons pris d'importantes mesures particulières pour sécuriser la ville de Kinshasa avec ce que vous avez observé la fois passée au marché central. C'est un phénomène du terrorisme urbain, du terrorisme islamiste. Et ces mesures, on ne peut pas les annoncer à la presse. Mais je vous promets, parce que nous sommes déjà en train de traquer ces terroristes, nous vous promettons que la situation est en train de s'améliorer et je crois qu'on va présenter ces terroristes à la presse les moments venus.
Cap à présent sur la province de Tchopo, il y a eu signature hier à Kisangani d'une convention de partenariat interuniversitaire pour la formation du personnel scientifique entre l'Université de Liège, l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa et l'Université de Kisangani. Cet accord vise à assurer la relève académique dans le cadre de la formation doctorale à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Kisangani. La cérémonie s'est déroulée au centre de formation continue Monaco de l'Université de Kisangani. André Kitenge pour les détails.
Les parties contractantes ont convenu d'établir un diplôme de doctorat en passant par un troisième cycle de recherche, DA ou Master de recherche en sciences économiques et de gestion. Écoutons un extrait de ce protocole lu par le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, professeur Patrick Matata.
Les parties conviennent de mettre tout en œuvre pour formaliser la collaboration entre la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Kisangani et l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa dans la création et le fonctionnement d'un cadre de formation en master et doctorat de l'Université de Kisangani et de l'ISC Kinshasa en partenariat avec l'Université de Liège.
Pour le recteur de l'Université de Liège, la signature de ce protocole d'accord entre les trois institutions constitue un élargissement du réseau de collaboration en République démocratique du Congo. Professeur Albert Correy.
Pour moi, c'est un pas supplémentaire dans la collaboration que je voulais installer au Congo en RDC. Donc j'avais commencé par l'ISC Kinshasa, mais nous souhaitions aller plus loin, notamment au niveau du doctorat. Et évidemment, l'accord ici avec l'UNIKIS nous permet justement d'avancer dans ce doctorat et d'élargir le réseau que nous créons aujourd'hui. J'en suis vraiment très très heureux.
André Kitenge, Kisangani, Radio Okapi.
1967-2017, l'Institut international d'agriculture tropicale, IITA, totalise 50 ans d'existence. La célébration de ce cinquantenaire d'anniversaire s'est déroulée hier à Pullman Hotel, à Kinshasa, en présence du ministre de l'Agriculture, du directeur pour l'Afrique centrale d'IITA et du directeur adjoint de l'USAID en RDC, représentant des bailleurs de fonds de cet institut. Occasion pour le directeur général de l'Institut national d'études et de recherche agricole, INERA, principal bénéficiaire de l'appui de l'État, de donner quelques réalisations de cet institut en RDC ainsi que des attentes dans le cadre d'un partenariat. Les propos de l'ingénieur Mbuya Kankolomo sont recueillis par Jean-Pierre Elali Koko.
Les actions de l'ITA en RDC sont bien nombreuses dans plusieurs domaines, notamment l'appui institutionnel et scientifique à l'INERA, le renforcement des capacités du personnel scientifique et technique par des formations aussi bien diplômantes que des spécialisations, et aussi la mobilisation des ressources pour la recherche. Je voudrais aussi mentionner ici de nombreux projets de recherche en collaboration avec des résultats très probants et la connexion de l'institution au monde scientifique international. Nos attentes par rapport à l'appui de l'ITA à l'INERA concernent aussi les nouvelles technologies de recherche. Nous attendons aussi une collaboration étroite pour la mobilisation des ressources financières pour la recherche agricole.
Nous faisons une brève escale à Lubumbashi pour nous signaler qu'un juge du tribunal de grande instance a été blessé par balle par des assaillants dans notre monde identifié. Les faits se sont déroulés ou se sont produits à sa résidence aujourd'hui aux environs d'une heure du matin. Selon plusieurs sources, les assaillants au nombre de 4 se sont introduits dans sa résidence vers minuit. Pensant qu'il s'agissait de voleurs, la victime leur a proposé de l'argent qu'ils ont refusé et lui ont dit qu'il serait en mission pour l'assassiner. Il a reçu plusieurs balles dans l'abdomen. Sa femme et sa fille auraient été violées par ses assaillants. Pour l'heure, la victime est prise en charge dans un hôpital de la place. Les médecins se sont réservés à tout commentaire sur son état de santé. Difficile aussi de confirmer si cet incident est lié dans le dossier opposant Moïse Katumbi à Alexandre Stoupis, dont l'affaire de spoliation de maison, dont l'examen de l'appel introduit par Moïse Katumbi a démarré aujourd'hui donc au tribunal des grandes de Lubumbashi.
Actualité Afrique Monde.
Et nous envolons pour l'extérieur de la RDC, bien entendu. Des peines allant de 2 ans de prison à la perpétuité ont été prononcées aujourd'hui contre 25 Sahraouis au Maroc. En 2010, 11 membres des forces de l'ordre marocaines avaient été tués dans le camp de Gdeim Izik, près de Laoyoune. Nous sommes au Sahara occidental. Le procès de Gdeim Izik, ouvert en décembre 2016 devant une juridiction civile, revêtait un caractère sensible avec en toile de fond le dossier du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole contrôlée en grande partie par le royaume et dont le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame l'indépendance depuis plus de 40 ans. La CPI statue sur la liberté, une liberté provisoire pour Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien. Doit-il bénéficier de la liberté provisoire en attendant la fin de son procès devant la CPI? La question est régulièrement débattue à La Haye et pour cause, les avocats de Laurent Gbagbo ont déjà déposé 11 demandes en ce sens depuis un an et demi, des demandes toutefois toutes rejetées par la Cour. Mais en mars dernier, après le 11e refus, les avocats de l'ex-dirigeant ivoirien ont décidé de saisir la Cour d'appel. Cette dernière doit rendre son jugement aujourd'hui.